Chapitre 39. Alors que Richard et Samantha avançaient aussi vite que possible dans le champ labouré, un exercice pas si facile que ça, les demi-humains commencèrent à sortir de la forêt. Au début, une dizaine seulement. Puis ce chiffre fut multiplié par 10, par 20, par 50. Comment pouvait-il jaillir ainsi des arbres, véritable marée non humaine? En quelques minutes, une poignée de cannibales, des adversaires que Richard aurait pu vaincre seul, s'était transformée en une multitude qu'il n'avait pas une chance de contenir. Le sourcier s'aperçut que sa compagne et lui n'avaient pas une chance d'atteindre la piste de cerf à temps. Les demi-humains qui couraient dans le champ leur auraient coupé le chemin bien avant. En haillons, comme leurs défunts compagnons, les demi-humains ne semblaient pas porter d'armes. Approchant de leur proie, ils se mirent à hurler comme des fauves affamés. À l'idée de ce qui excitait leur appétit, Richard ne put s'empêcher de frissonner. Que fallait-il faire? Dans la forêt, ils auraient eu une meilleure chance parce que tout espace confiné réduisait l'avantage dû au nombre. Dans ces conditions, les demi-humains n'auraient pas pu attaquer tous ensemble. En revanche, sur un terrain découvert, Richard et Samantha n'avaient pas une chance. Attaqué de tous côtés, le sourcier tuerait sans doute beaucoup d'adversaires, mais il finirait par être submergé. Cela dit, ces ennemis-là n'étaient pas vraiment des êtres humains. En conséquence, dans une bataille, ils ne réagissaient sûrement pas comme tels. D'après le récit de Nadja et ce que Richard venait de vivre près de l'enclos des cochons, ces créatures ne semblaient pas vraiment craindre pour leur vie. Sur certains champs de bataille, Richard avait vu des soldats adverses chargés avec une parfaite inconscience, mais c'était différent. Les demi-humains semblaient ne pas avoir besoin de circonstances exceptionnelles pour se ficher de la mort. Atteindre la forêt étant impossible, Richard ralentit, s'arrêta et regarda autour de lui. Aucune voie de fuite. Sur ce terrain découvert, les demi-humains les rattraperaient où qu'ils aillent, et avec deux âmes dans leur collimateur, on pouvait parier qu'ils ne renonceraient pas. Richard comprit ce qu'avaient dû éprouver Zed, Nietzsche, Kara et les autres quand une marée de sauvages avait déferlé sur eux. C'était plus terrifiant que tout ce qu'il avait vécu. Loin de paniquer ou de demander ce qu'il fallait faire, Samantha commença à décrire d'étranges mouvements avec ses bras. Elle ne les bougeait pas très vite, mais avec quelques difficultés, comme si elle manipulait un objet invisible très lourd. Soudain, la terre contenue par les sillons sembla être soufflée par un vent venu de nulle part. Richard comprit ce que faisait Samantha. Elle pliait le vent à sa volonté, tentant de générer une tempête. « Tu peux faire plus violent que ça ?» demanda Richard. Du coin de l'œil, il essaya d'estimer la distance que les demi-humains devaient parcourir avant de leur tomber dessus. « J'essaie !» souffla Samantha alors que le mouvement circulaire de ses bras s'accélérait. Les bourrasques plus puissantes soulevèrent plus de terre et entraînèrent avec elles des touffes d'herbe et des cailloux. Un cyclone était en train de naître. « Dommage que le sol soit mouillé !» cria Richard pour couvrir les rugissements des demi-humains et ceux du vent déchaîné. « S'il était sec, une colonne de poussière nous dissimulerait le temps de gagner la forêt !» Samantha leva brièvement les yeux. Dans son regard, Richard lut qu'elle venait d'avoir une idée. Au mouvement circulaire, elle ajouta de temps en temps une sorte de balayage du plat de la main, comme si elle voulait écarter quelque chose. Richard capta la chaleur qu'elle générait en faisant ça. Exactement comme il pouvait former un point invisible avec de l'air, le don était capable d'en extraire de la chaleur et la focaliser en vue d'un usage bien précis. Bientôt, il fit une chaleur infernale. En même temps qu'elle maintenait son cyclone, Samantha envoyait des ondes chaudes sécher le sol. Ayant déjà vu Zed et quelques magiciennes utiliser ce sortilège, le sourcier comprit exactement ce qui se passait. Désorientés par la fournaise, les demi-humains ralentirent un peu. Certains mirent une main devant leurs yeux afin de les protéger des débris qui volaient dans les airs, d'autres semblaient déjà aveuglés. Soudain, toute l'humidité contenue par la terre s'évapora. Aussitôt, des colonnes de poussière, presque des rideaux, apparurent dans l'air. Voyant des demi-humains courir vers la droite ou la gauche avec l'intention de contourner l'obstacle, Samantha se mit à faire tourner ses bras au-dessus de sa tête. Lui obéissant, Les murailles de poussière commencèrent à tourbillonner, formant très vite une infranchissable barrière circulaire au centre de laquelle se tenaient Richard et sa compagne. Très vite, le sourcier ne parvint plus à voir à travers ses rideaux. Et s'il en allait ainsi pour lui, c'était la même chose pour les demi-humains de l'autre côté. Ayant gravé dans son esprit la position de la piste de serre par rapport à la sienne, il n'avait pas besoin de la voir pour savoir dans quelle direction fuir, le cas échéant. Dans l'œil du cyclone, Richard et Samantha ne voyaient plus rien, mais ils étaient pour l'instant hors d'atteinte de leurs adversaires, et la jeune magicienne semblait avoir encore beaucoup de force en réserve. Lorsque Richard ne put plus apercevoir l'ombre d'un demi-humain de l'autre côté des tourbillons, il se pencha vers Samantha afin qu'elle l'entende dans le vacarme du vent. « Pendant que tu fais ça, peux-tu te déplacer ?» Immergée dans sa concentration, la jeune magicienne répondit néanmoins « Je n'en sais rien !» D'après son expression, la jeune fille en doutait fortement. Pourtant, elle devait essayer. À l'évidence, et malgré les apparences, maintenir ses invocations lui coûtait de très gros efforts. Mais pour être en sécurité, Richard et elle n'avaient plus qu'à approcher de la piste de serre sans que les demi-humains les voient. Échouer si près du but aurait été dommage. Une idée traversa l'esprit du sourcier. « Surtout, continue à lancer ton sort, Samantha. Ne t'arrête sous aucun prétexte. » Les rugissements du vent étaient si puissants désormais qu'on n'entendait plus ceux des dévoreurs d'âmes. Se demandant visiblement ce que Richard avait à l'esprit, Samantha hocha simplement la tête. Richard lui passa les bras autour de la taille et la souleva de terre. « Continue, surtout ne t'arrête pas. Je vais nous faire gagner la forêt. » Alors que le cyclone ne faiblissait pas d'un iota, Richard hissa la jeune fille, légère comme une plume, sur ses épaules, la tint fermement par les hanches pour qu'elle ne bascule pas et partit au pas de course. Alors que l'épuisement devait commencer à la gagner, Samantha ne se plaignit pas et ne relâcha pas son effort. Le cyclone se déplaça avec les deux fuyards, les dissimulant à la vue de leurs poursuivants. Richard se demanda quelle était la taille de cette tempête. Avant que les rideaux de poussière soient devenus opaques, il avait eu le temps de voir qu'il ne s'agissait pas d'un cyclone de poche. Immense, le tourbillon tenait à distance des centaines, voire des milliers de demi-humains. À l'intérieur, il faisait une chaleur d'enfer. L'air chaud lui brûlant les poumons, Richard avait en plus le nez plein de poussière, un autre obstacle à une respiration optimale. Il ne ralentit pas pour autant. C'était leur seule chance de s'en tirer vivant. Soudain, il entendit des bruits qu'il identifia sans peine, parce qu'il les guettait depuis le début de sa fuite. Le cyclone venait d'entrer en contact avec la forêt, arrachant des feuilles ou des aiguilles aux branches des arbres. Très vite, la tempête retourna aussi le sol de la forêt, envoyant des cailloux percuter les troncs. Des bruits secs indiquèrent au sourcier, un ancien garde forestier, que des branches cassaient net dans la tourmente. Quand il aperçut la piste de serre, Richard s'y engouffra sans hésiter un instant. Sur ses épaules, Samantha continua à imposer sa volonté aux éléments.